Actu SF, les podcasts.
Bonjour et donc bienvenue à cette table ronde consacrée à la fantasy historique. Je trouve que c'est déjà le sujet qui nous a occupé les deux jours précédents au premier colloque des Imaginales sur fantasy et histoire. Donc voilà, on maîtrise ce sujet, mais là on va avoir de nouveaux exemples très intéressants à traiter chez des autrices françaises, donc hyper contemporaines, et puis avec l'œil d'un historien médiéviste sur cette vaste question des rapports entre fantasy et histoire. Donc je vais commencer par présenter mes invités. D'abord Silène Edgar, donc, qui est autrice d'une dizaine de livres pour jeunes et aussi pour adultes, dont 14-14, qui a été couronné par de nombreux prix avec son complice Paul Béor. Celui que j'ai là, Adèle et les noces de la reine Margot, les lettres volées, 42 jours aux éditions Castelmore à chaque fois, les éditions Castelmore qui viennent aussi de nous faire le plaisir de rééditer la première trilogie qu'avait écrit Silène, Moana, qui était devenue indisponible et qui donc voilà est à nouveau publiée et à disposition de ses lecteurs. Et donc on va voir que Silène utilise largement la matière historique dans ses romans. Quelquefois c'est de la fantaisie, quelquefois c'est même du roman historique. Sylvie Miller est connue, elle est engagée dans les littératures de l'imaginaire à de nombreux titres. Elle a notamment été traductrice et puis anthologiste. Elle nous a fait découvrir les littératures de l'imaginaire hispanique. Et puis, bien entendu, donc, comme autrice également, avec les désormais 4 tomes, c'est ça. J'ai vu 3 et puis j'ai vu 4. Il y en a 4. Hein. D'accord. Donc la série en cours, déjà 4 tomes de Lasserre, détective des dieux, donc qui sont écrits à 4 mains avec son complice Philippe Ward. Et puis en 2017, son beau roman personnel qui doit être en train d'arriver, je le vois arriver dans les mains de Corentin, que je remercie pour son à-propos. Donc ça s'appelle Satinka et donc c'est publié, c'est paru chez Critique. Et enfin, Georges Bischoff, donc est historien, médiéviste et spécialiste de l'histoire de l'Alsace. Il a longtemps travaillé à l'université de Strasbourg et il nous fait le plaisir depuis plusieurs années de répondre à l'invitation du festival et de son pôle histoire notamment. Alors parmi les derniers ouvrages parus de Georges Bischoff, qui a une bibliographie extrêmement riche, et en tant qu'universitaire, c'est très impressionnant. Donc, ces derniers ouvrages parus, il y a Le siècle de Gutenberg, Strasbourg et la révolution du livre. Et puis aussi, je tiens à signaler le livre qui accompagnait une exposition qui a eu lieu l'an dernier, qui s'appelait Néo-gothique, fascination et réinterprétation du Moyen-Âge en Alsace. Et donc, il a co-rédigé avec les responsables de cette exposition. Alors, on en vient à vos œuvres. Silène, dans 14-14, et puis dans Adèle, il y a un dispositif qui permet à des jeunes d'aujourd'hui d'entrer en contact avec l'histoire. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce procédé-là, c'est-à-dire de ne pas nous proposer directement une plongée dans l'histoire, mais des allers-retours entre deux époques?
C'est vraiment le même mouvement. Alors, en fait, j'ai écrit Adèle avant 14-14, et puis du coup, on a fait la même chose après avec Paul. L'idée, c'était d'intéresser des jeunes gens à la guerre de 14-18. On était à l'orée du centenaire. On s'est dit, bon, voilà, ces jeunes gens, ils ne vont pas forcément être intéressés par tout ce qui va se faire, parce que pour eux, c'est beaucoup plus loin. Nous, dans notre génération, on avait eu la chance de discuter avec nos anciens. On avait encore des poilus qui pouvaient témoigner. Et il nous a semblé que là, l'histoire pouvait passer par la fiction, pour être plus accessible et que pour que le propos soit d'autant plus intéressant pour ces jeunes gens, l'identification à un personnage d'aujourd'hui serait un bon moyen de les attirer à s'intéresser à cela, et puis pour comparer aussi, pour qu'ils puissent se rendre compte que entre un ado simple d'aujourd'hui et un ado simple d'hier, finalement les préoccupations sont quand même similaires dans l'ensemble, mais le contexte est tellement différent que et les enfants en 1914 ou avec Adèle au XVIe siècle, le contexte est tel qu'ils ne peuvent pas mener la même vie, bien sûr. Et donc que l'enfant d'aujourd'hui, soit en échangeant dans 1414 par lettre avec un enfant de 1914, soit dans Adèle, ouais, dans son rêve en fait, elle se retrouve dans cette autre époque, va pouvoir constater et emmener le lecteur un petit peu par la main pour constater ses différences et aussi ses ressemblances. Qui nous semble essentiel, voilà, donc les intéresser à l'histoire, leur faire prendre conscience aussi de certains invariants dans l'humanité et du fait que ces éléments historiques, de fait valorisés par ces rencontres, sont importants encore aujourd'hui pour qu'ils comprennent leur propre position dans le monde. Et en particulier sur Adèle, les guerres de religion, voilà, c'est un texte qui est paru en 2015. On est dans des questions d'affrontement entre religions. On a déjà vécu ça. On a déjà des puissants qui ont massacré beaucoup de gens pour plus de pouvoir. Et de fait, se dire, bon, voilà, on l'a déjà connu avec la guerre civile qui a duré très longtemps en France. On peut se reposer ces questions aujourd'hui entre gens simples. De ne pas se détester pour des religions différentes, en fait.
Sylvie, dans Satinka également, on a un mécanisme qui nous fait passer dans une histoire, alors non, plus récemment, voilà, une histoire de fin 19e, début 20e aux États-Unis, par l'intermédiaire d'une héroïne d'aujourd'hui, Jenny. Est-ce que, alors peut-être que l'objectif pédagogique en moins, mais l'idée est la même que celle de Silène, c'est-à-dire nous donner accès à l'histoire et nous faire réfléchir sur elle ?
Oui, absolument. Quand j'ai commencé à réfléchir à l'idée du roman, j'étais partie de l'idée de ce personnage. La construction de la grande voie de chemin de fer, moi, c'est une période de l'histoire des États-Unis qui m'a toujours impressionnée parce que c'était vraiment un chantier d'une ampleur extraordinaire. Et j'ai commencé à faire des recherches là-dessus et j'ai vraiment découvert tout un pan de l'histoire des États-Unis, de l'histoire de la Californie qui ne nous est pas connue et qui même, à la limite, n'est pas accessible aux Américains eux-mêmes. Il y a plein de choses qui ont été gommées, notamment toute l'histoire des tribus amérindiennes, locales. Et donc, quand j'ai commencé à tirer le fil et à dérouler la pelote, de recherche en recherche, je suis allée chercher sur des travaux d'universitaires, j'ai contacté des gens qui habitaient à la réserve d'Auburn, ce qu'ils appellent la rancheria d'Auburn, etc. Et là, j'ai commencé à avoir une vision qui était passionnante et j'ai vraiment eu envie de pouvoir communiquer. C'est pour ça que j'ai vraiment détaillé des passages sur, par exemple, tout le trajet que pouvaient faire les colons, ces colons irlandais qui arrivaient au XIXe siècle, montrer la difficulté que c'était de passer de l'Est vers l'Ouest, de également aborder toute l'histoire des Amérindiens et notamment de ces tribus californiennes qui ont été complètement massacrées, puisque à l'époque, le gouvernement de Californie payait même les gens. On payait le scalp ou le cadavre, c'était $1 le scalp, donc c'était le tir au pigeon, littéralement. Et puis également, quelque chose qui est extrêmement important, il y a eu une très forte immigration chinoise. Ce sont des ouvriers chinois qui faisaient les travaux les plus durs de creusement de galeries, d'explosions, dans des conditions absolument hallucinantes. Et donc j'ai vraiment eu envie, petit à petit, de mettre ça. Et donc et en plus, ça a eu aussi une importance dans l'intrigue, puisque l'héroïne va être confrontée à ça. J'ai voulu donc traiter l'histoire déjà en ressortant du passé des choses, même si je les réinterprète un peu à ma sauce, mais ça permet quand même, il y a des choses qui sont très très fidèles à des carnets de notes, par exemple, que j'ai trouvés d'époque. Là, vraiment, il y a des ressources bibliographiques. Ils ont mis beaucoup de choses en ligne sur les différentes universités californiennes. Donc, c'est une vraie mine d'or pour les recherches.
Oui, et d'ailleurs, il y a un passage où l'héroïne rencontre des universitaires pour leur montrer son...
Absolument. Et donc, ça fait référence à un vrai programme à l'heure actuelle, où justement ils sont en train d'essayer de recenser tous ces éléments d'histoire autour des Chinois quand est-ce qu'ils sont venus, qu'est-ce qu'ils sont devenus, comment ils se sont intégrés à la société américaine, qu'est-ce qu'ils ont gardé de leur tradition, et donc c'était aussi passionnant de pouvoir restituer ça.
Georges Bischoff, qu'est-ce que vous pensez de cette démarche qui consiste à donc donner accès à l'histoire non seulement à travers le roman, mais à travers des personnages qui ont des visions qui les amènent dans des périodes historiques ?
Eh bien, un historien n'a pas le droit d'être fantaisiste. Il est contraint à la vérité des sources et à l'obligation d'un résultat analysable, critiquable, incontestable. En réalité, un historien fait toujours de la fiction. Un historien invente parce qu'il est, d'abord, il est obligé d'agencer des faits pour essayer de, de reconstruire des enchaînements. Ensuite, il est obligé de combler les trous de sa documentation. Et par conséquent, très vite, on le voit divaguer, sans compter que ses intentions ne sont pas toujours très claires. Est-ce qu'il est là pour servir une vérité absolue, ou est-ce qu'il est là pour faire apprendre, pour tirer des leçons morales, ce qui a souvent été le cas du travail des historiens. Alors je suis un peu embêté d'être obligé de défendre des gens qui ont pour principale mission de désenchanter l'histoire et d'empêcher une création libre. Mais en réalité, je crois qu'on y retombe très 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 vite, dès qu'on se laisse aller un peu spontanément, on se met à créer, on se met à inventer et on devient romancier plus qu'historien.
Et est-ce qu'il peut y avoir un apport pédagogique, hein, comme le soulignait Silène qui travaille avec des dossiers pédagogiques pour les classes, de passer ainsi par des romans éventuellement de fantasy ou des romans historiques, pour une première approche, une sensibilisation à une période.
Je pense que c'est absolument essentiel, parce que l'histoire savante, l'histoire universitaire, elle est totalement désincarnée, à moins qu'on s'identifie à Louis XIV et qu'on fasse du Stéphane Bernisme. Non, je crois que ce qui est important, c'est d'avoir des lecteurs qui s'identifient à des personnages, qui sont des héros à qui arrivent des aventures, ou éventuellement des témoins pour lesquels il ne se passe pas grand-chose et où tout se passe à l'extérieur. Mais c'est très important. Personnellement, si je suis devenu historien sérieux avec des tonnes de guillemets, c'est parce que j'ai lu plus de romans que d'ouvrages d'histoire et plus de bandes dessinées que de manuels scolaires.
Merci beaucoup pour cette approche toujours rafraîchissante de la science historique, je t'en prie.
Oui, je voulais compléter quelque chose, puisque là on a effectivement la vision de l'histoire par l'historien qui creuse et bon, par éventuellement l'écrivain qui va aussi chercher dans les travaux des historiens ce qu'il peut trouver. Mais dans Satinka, on a aussi l'histoire à travers la transmission au niveau des différentes générations, puisque là, c'est une jeune fille notamment qui est à la recherche de ses origines et qui donc va aussi entendre des récits de sa grand-mère et éventuellement redécouvrir aussi des choses plus lointaines. Et c'est vrai que l'histoire, on en a aussi une vision, nous. Moi, je sais que j'ai été bercée notamment de récits de mes parents, de mes grands-parents qui me parlaient de la Deuxième Guerre mondiale, éventuellement, toute petite, une arrière-grand-mère qui, elle, avait vécu 14-18 quand elle était petite, enfin, ou quand elle était plus jeune. Et du coup, on se construit aussi une représentation de l'histoire à travers ça. Et c'est un petit peu aussi ce que j'ai voulu montrer dans Satinka. La confrontation entre, finalement, l'histoire telle qu'elle était et sa vision, la vision qu'elle s'était faite de cette histoire à travers les documents qu'elle avait lus et à travers ce qu'on lui en avait raconté.
Excuse-moi, j'interviens. Je voudrais dire que l'histoire, c'est de la mémoire froide, alors que la fiction, c'est une fabrique de mémoire. Et à ce titre, ça aide, à déconstiper l'histoire.
Oui, j'interviens aussi parce que dans Moana, donc, qui est une trilogie de science-fiction, d'anticipation, a priori, l'histoire n'aurait rien à voir, sauf que moi, j'ai démarré avec ce premier roman, avec le personnage d'une arrière-grand-mère qui a vécu de nos jours et qui, dans un futur post-apocalyptique, raconte à son arrière-petite-fille tout ce que nous, on peut avoir aujourd'hui. Et toute la question de la trilogie, c'est Que faire de cette mémoire? Comment est-ce que la jeune héroïne va se débrouiller avec ça? Parce que ils sont dans des conditions de survie difficiles, et donc le gouvernement leur demande de laisser ça de côté, de laisser cette mémoire de côté pour se concentrer sur l'avenir, hein, parce que c'est vital. Et donc la petite qui prend l'héritage de son arrière-grand-mère de ses récits va, elle, décider, non, au contraire, de continuer à parler de ça. Mais pourquoi faire? Et l'arrière-grand-mère elle-même est dans ce questionnement de se dire, mais qu'est-ce que je lui laisse? Parce que on nous dit toujours c'est important de transmettre cette mémoire-là, mais dans ce monde-là, comment elle va s'en débrouiller de ça? Quel poids elle va devoir porter puisque le monde a complètement changé? Alors évidemment, voilà, la réponse est à trouver dans le bouquin, et vous la devinez.
Elle va pouvoir s'en servir. Ouais. Bon, effectivement, c'est une question que je réserverai plus tard, mais que je vais poser tout de suite. C'est, vos deux romans sont vraiment des histoires de transmission. On n'a pas seulement l'aspect de reconstitution historique, mais effectivement un travail, une mise en abîme sur le processus de transmission, avec effectivement l'héroïne qui va retrouver des artefacts qui lui ont été légués et devoir reconstituer la manière dont ils sont arrivés jusqu'à elle, ou bien le mécanisme surnaturel des lettres qui s'échangent entre les deux Adrien, celui de 2014 et celui de 1914, qui nous fait réfléchir justement sur ce qu'on a gardé comme mémoire de 1914, et puis de mémoire, enfin, comment on reconstruit l'histoire à rebours, quoi. Comment est-ce qu'on peut ou dans Adèle, le passage se fait par l'intermédiaire d'Alexandre Dumas.
Par le livre, oui. Ouais. Alors ça, c'était deux choses importantes. Déjà, Adèle, à la base, quand j'ai commencé à l'écrire, c'était vu par la grand-mère qui était dans son urne sur la cheminée. Alors là, mon éditeur m'a dit, ça va pas passer très bien en jeunesse. Mais bon, j'ai toujours des grand-mères dans les histoires, et moi je trouvais ça assez amusant que ce soit de son point de vue qu'elle dise, bon voilà, qu'est-ce qu'elle va en faire la petite hôte de tout ça. Et elle rentre en histoire par le roman, en fait, par La Reine Margot de Dumas, comme moi j'ai pu le faire. Je suis rentrée dans l'histoire par les fictions historiques, en fait, et j'ai continué à m'en servir pour Les Lettres Volées. J'ai beaucoup puisé dans Le Vicomte de Bragelonne. C'est moi ce qui m'intéressait naturellement, et de fait, quelque part, j'évitais le piège aussi de raconter n'importe quoi et de pas être exact en histoire, en disant de toute façon, c'est une histoire à partir d'une histoire qui elle-même est peut-être bien. Enfin, si Dumas s'est trompé, il s'est trompé, c'est pas de ma faute.
Oui, pour en revenir à cette transmission, parfois il arrive même que la transmission se heurte à la version officielle de l'histoire, parce que on dit que l'histoire, ça peut être une reconstruction. Parfois, c'est même une déconstruction, c'est-à-dire qu'on va déconstruire le réel pour en reconstruire un autre. C'est quelque chose que j'ai rencontré aux États-Unis, notamment en discutant avec les membres de cette réserve. Et il y a une réflexion que je fais dire à un de mes personnages, qui est texto, ce qui m'a été dit, à savoir que dans les manuels scolaires de l'école primaire en Californie, les tribus amérindiennes ont disparu. C'est-à-dire qu'il y avait une terre vierge, il n'y avait personne, il y a des moines espagnols qui sont arrivés, après les colons sont arrivés et tout va bien. Et donc, en fait, s'il y avait eu des Indiens, ils ont gentiment accepté de partir. Ils s'en sont allés parce qu'effectivement, ils savaient que les colons avaient besoin de terre pour prospérer, donc gommé de l'histoire. Et donc là, cette tribu qui justement cultive la transmission du passé de la tribu et qui donc vénère un peu la mémoire des ancêtres et puis donc sait ce qui s'est passé, lisant ça dans les livres d'histoire, ils y sont un petit peu interloqués, parce que là, pour le coup, on a l'impression que dans l'inconscient collectif d'un certain nombre de WASP, en fait, ce qu'ils appellent les White Anglo-Saxon Protestants, donc les descendants des colons, ce sont des moments de l'histoire qui sont gênants et on les a gommés.
Permet rapidement. Nous, ça a été le propos avec 1414, avec Paul Béorn, donc de débuté l'histoire en janvier 14. Et donc, bon, voilà, la légende commune qu'on apprend dans les manuels scolaires, c'est que les gens ont été très surpris quand la guerre a éclaté, qu'ils s'y attendaient pas du tout. Voilà, ce qui est faux. Et on le montre dans le livre par petites touches. Alors évidemment, Adrien, il a 13 ans, lui, il se doute pas trop des choses, mais son instituteur est engagé. Et donc, voilà, lui, il lit ce qui se fait, il connaît ce que fait Jaurès, son grand-père aussi. Et donc, ça nous a permis de mettre en perspective un enfant, un jeune adolescent d'aujourd'hui, de lui dire, mais enfin, malgré ton âge, malgré ta jeunesse, tu as déjà des éléments de réflexion qui sont là, et tu, si tu t'en saisis, si tu t'en empares, tu ne seras pas pris au dépourvu face à quelque chose qui te dépasserait. Parce qu'on trouve ça quand même fou d'enseigner aux enfants que les gens en 14, ils ne savaient pas ce qu'allait se passer, alors que le service militaire venait de passer à 3 ans, quelques mois avant, qu'il y avait déjà des conflits. Donc, non, s'ils veulent bien se saisir de ces éléments historiques, ils seront capables aussi de se saisir des éléments d'actualité qui leur permettront de comprendre le monde dans lequel ils sont. Donc, voilà, par ce rétablissement en fait d'un fait historique qu'on ne leur donne pas, il y a derrière aussi cette volonté de leur montrer qu'ils sont quand même maîtres de l'information qu'ils vont aller chercher. Alors après, avec évidemment des limites, mais ils peuvent se saisir de ça.
Ça me paraît très important parce que la fiction, le roman, le cinéma, la bande dessinée permettent de fissurer l'histoire béton telle qu'elle est donnée clé en main. Et moi, je suis particulièrement frappé de voir à quel point les bandes dessinées de Tardy ont totalement renouvelé notre approche de la guerre de 14-18 pour laquelle il n'y a plus de témoins vivants, hein, il n'y a plus de mémoire vive, c'est la mémoire sèche. Eh bien, Tardy nous invite à faire une archéologie de la guerre de 14-18 et une archéologie des mentalités. Et c'est très important. Et ça, c'est grâce à la littérature.
Pardon. Moi, j'ai été marquée un petit par le fait que quand Denain a sorti Meurtre pour mémoire, ça a été un espèce de coup de tonnerre pour mon père qui vivait dans les face aux bidonvilles de Nanterre et qui avait vécu le 17 octobre 61 de visu et qui, comme il était petit, avait l'impression que ça n'avait pas existé et doutait de sa propre mémoire jusqu'à ce que Denain sorte son roman. Et là, mon père s'est senti autorisé à aller chercher les éléments, à se rendre compte que oui, en effet, on avait caché ce qui s'était passé. Et que ça avait bien existé, qu'ils n'avaient pas rêvé. Ils les avaient vus rentrer au bidonville, ces Algériens ensanglantés, et certains qui ne rentraient pas. Et ce n'était pas juste un cauchemar d'enfant, c'était une réalité. Donc voilà comment moi aussi j'ai commencé à écrire et comment je suis rentrée là-dedans, avec cette expérience-là.
En fait, toutes les recherches de documentation que j'ai fait, les témoignages que j'ai pu collecter, ça m'a montré une chose que je savais déjà un peu avant. C'est que, comme vous le disiez à fort juste titre, l'historien, lui, il se doit d'être objectif par rapport à la documentation dont il dispose. Mais, en fait, il est justement tributaire de cette documentation. Et on a vu parfois des revirements dans les interprétations se faire parce qu'on a trouvé de nouveaux documents, de nouvelles sources qu'on n'avait pas avant. Et c'est là aussi où c'est passionnant, ce travail de chercheur, parce que ça permet de réexplorer des nouvelles pistes et de continuellement réinterroger une version de l'histoire qui peut apparaître comme figée, mais qui, en réalité, ne l'est pas.
Oui, moi, je voudrais ajouter qu'un historien, pour écrire l'histoire, ne dispose que d'archives, c'est-à-dire de documents morts ou éventuellement de mémoires qui ont été fossilisées à un certain moment. Ça ne présente qu'une toute petite partie de ce que les hommes ont vu, vécu, fait, etc. Et donc, c'est insignifiant. Il est donc obligé de compléter, de reconstituer tant bien que mal, et il n'est pas forcément capable d'y arriver. À l'heure actuelle, on arrive à peu près à savoir comment fonctionnaient les sociétés proto-historiques. Ce ne sont pas les historiens qui l'ont appris, c'est les archéologues. Et là, je crois qu'il faut être très, très, très modeste. C'est un travail de construction et de déconstruction du savoir précédent.
En même temps, on voit bien que les avancées de l'historiographie, dans la manière d'écrire l'histoire, sont parallèles aux préoccupations d'une époque, et notamment aux préoccupations qu'expriment les romanciers. notamment cette idée de redonner la voix à des mémoires qui ont été tues ou supprimées, comme celle des minorités ethniques. Le mouvement des gender studies, qui consiste aussi à essayer de savoir quelle place pouvait être celle des femmes, qui là encore n'a été très peu étudiée et du coup a un peu disparu de la documentation la plus accessible puisqu'elle n'était pas en première ligne. Donc il y a aussi dans le mouvement du travail des historiens, je m'adresse plutôt ici à Georges Bischoff, des évolutions parallèles à celles dont on témoigne ici.
Il y a un certain nombre d'armoires qui sont fermées et puis il y a pas mal d'amnésie. Donc il s'agit effectivement, parfois non pas de violenter le passé, mais d'essayer de le chercher là où on ne s'attend pas à le trouver. Le cas de l'histoire des femmes, les femmes, la moitié de l'humanité, son histoire, c'est quoi? C'est 5% des pages qui ont été publiées, c'est rien.
J'ai l'impression aussi que, à une époque, les disciplines étaient extrêmement cloisonnées, et que, comme vous parliez tout à l'heure des archéologues, j'ai l'impression que maintenant, on essaie de recouper davantage. Je sais qu'il y a eu un travail, par exemple, de généticiens, notamment autour du génome de Néandertal. Néandertal, on disait, lorsque Homo sapiens est arrivé, il l'a supprimé, il a disparu. Or, on a réalisé que dans le génome, dans notre génome, certains ont... Alors, il s'est passé d'autres choses, et du coup, c'est la génétique qui a fait se réinterroger. J'ai l'impression que les historiens, il y a peut-être davantage de pluridisciplinarité pour essayer d'aller trouver davantage de sources.
Oui, ça exige un travail en équipe qui pendant très longtemps était impossible. Les historiens restent malgré tout des individualistes. Mais je crois
comme
que
tous les universitaires.
Les universitaires en général. En tout cas, c'est bien parti. Il faut effectivement s'alimenter les uns et les autres. Mais enfin, ça fait déjà quasiment 100 ans que certains esprits préconisent ça. Hein. L'école des annales, Marc Bloch, Lucien Febvre, c'était ça, mais ça a été précédé par Henri Bert quelques dizaines d'années plus tôt.
Le choix des périodes que vous avez voulu traiter, c'est justement cette idée de période oubliée ou de période qui nous doivent nous apprendre des choses sur aujourd'hui. Notamment, vous, Silène, vous avez quand même exploré plusieurs époques assez nombreuses.
J'ai choisi,
comment vous les choisissez?
J'ai choisi quatre époques. Alors, au début, voilà, il y a eu Adèle et 14-14, et puis les lettres volées et 42 jours sont venues après dans mon idée. J'avais envie d'explorer quatre moments qui me semblaient essentiels avec un biais. Donc 14-14, en le voyant juste avant-guerre, parce que c'est pas un roman sur la guerre elle-même, c'est un roman sur les mois qui précèdent et la façon dont la vie de ces gens a été détruite. Dans Adèle, d'avoir une petite qui ne sait absolument pas ce que c'est qu'un protestant et donc qui n'a absolument pas conscience de ce qui se passe, qui ne s'y intéresse pas, qui va découvrir tout ça. C'est l'ado Adèle, hein, elle est pénible, c'est l'archétype de l'ado chiante. Et puis en même temps, elle va y trouver son compte aussi. Donc ça m'intéressait bien, c'est une période qui est peu étudié en classe, les guerres de religion aujourd'hui. 42 jours, c'est 42, quoi. Donc voilà, après c'est très lié à moi des choses de mon histoire. Moi, c'est les lettres volées que j'ai envie de défendre là, parce que ça a été, j'ai étudié Sévigné à la fac. J'ai été très touchée par le fait que la lecture de Sévigné a beaucoup évolué à travers les siècles.
Oui, c'est sur l'histoire de la fille de Madame de Sévigné, la fameuse Madame de Sévigné, qui est de la correspondance des lettres de Madame de Sévigné. C'est son histoire à
et
la
du
cour.
Du coup, alors moi j'ai étudié ça. Alors quand on en lit 3, ça va, quand on en lit 120, c'est pénible quand même. C'était une maman très qui couvait beaucoup sa fille et donc Sévigné, elle a été lue de manière différente. Elle a intéressé d'abord les historiens avant d'intéresser d'un point de vue littéraire. Longtemps on a contesté le fait que c'était de la littérature, et puis on change de regard selon les siècles, selon la réception. Et elle a élevé sa fille vraiment pour qu'elle ait une certaine liberté. Elle a refusé de l'envoyer au couvent. Elle lui a donné beaucoup de choses. Elle n'avait que deux enfants. Elle était débarrassée de son mari qui était mort dans un duel pour sa maîtresse. Donc, elle a fait un peu ce qu'elle voulait. Et puis, elle fréquentait les précieuses qui, à l'époque, n'étaient pas encore ridiculisées, qui étaient soutenues par Fouquet. Et il y avait vraiment une création féminine bien réelle. Hein. Et puis arrive la mort de Mazarin, la prise de pouvoir de Louis XIV, qui a fait énormément de mal à tout le monde hein, avec ce pouvoir absolu, mais aussi principalement aux femmes et aux femmes créatrices, puisque elles n'ont plus créé. Après, il les a enfermées dans un rôle de danseuse ou dans son lit. Il y en a eu beaucoup. Et en étudiant un peu l'histoire de la petite Sévigné, qui était promise sans doute à un avenir plus sympathique et qui a été mariée à un vieux type ruiné, j'avais envie de montrer que cet événement, ce passage de pouvoir de Fouquet à Louis XIV a été pour nous les femmes aussi fort dans notre histoire qu'ont pu l'être les guerres dont j'avais parlé auparavant.
D'accord, donc effectivement une perspective ici féministe sur le oui, qui ouais. explique le choix de la période historique. Sylvie, est-ce que les années 30 de la Serre aussi pour revenir à l'autre partie de l'œuvre, bon c'est plus un contexte historique très réécrit, peut-être plus même un contexte fictionnel puisque c'est le privé au chapeau mou et c'est les belles voitures.
Voilà. Là effectivement c'est en fait une réinterprétation du polar des années 30 en y mélangeant davantage des éléments de mythologie donc en renouvelant un peu le genre, mais effectivement ça reste quelque chose qui est fictionnel, même si il y a quand même eu énormément de recherches sur notamment des plans des villes dans les années 30 telles qu'elles étaient pour pouvoir dire ben, quand il va là, il prend telle rue, il monte, il descend. Là, c'est un vrai travail sur plan. Donc, d'essayer de mêler à travers de la recherche des choses des années 30, des choses de l'Antiquité. Pareil, avec beaucoup de recherches sur les temples, comment ils étaient quand ils étaient debout. Donc en les reconstruisant tels qu'ils étaient à l'époque, et j'ai des amis qui sont archéologues ou autres qui m'ont dit, ben, franchement, qui m'ont fourni de la doc et qui m'ont dit, c'est nickel, ça tient la route. Et donc c'était très amusant de mélanger ça. Et puis les dieux aussi qui sont un peu modernisés, comment ils seraient s'ils étaient dans les années 30, donc très VIP, mais tout en ayant gardé les histoires familiales et les caractéristiques de ces dieux. Donc là, c'est un petit peu une réinterprétation de l'histoire, mais plus par jeu. Alors que dans Satinka, il y avait une vraie préoccupation d'essayer de faire redécouvrir ces périodes-là. Le 19e siècle aux États-Unis, c'est un siècle qui représente un moment de bascule dans l'histoire de l'Amérique. En fait, enfin, je ne devrais pas dire de l'Amérique, puisque l'Amérique, c'est aussi l'Amérique du Sud. Et si je dis l'Amérique du Nord, il y a aussi le Canada qui a ses propres problématiques. Donc, disons les États-Unis. Donc, dans l'histoire des États-Unis, avant le 19e siècle, la grosse période de population, enfin d'installation des colons, c'est le 19e siècle en fait, hein, puisque 17e, 18e, c'était un peu moins. Là, ils arrivent massivement. Et puis, la construction de cette voie de chemin de fer Est-Ouest, elle a brisé toutes les frontières. Elle a brisé toutes les barrières et elle a permis le développement économique, le déplacement massif entre Est et Ouest et l'invasion du centre. Et du coup, elle a permis aussi l'écrasement des Indiens. Qui avant arrivaient à peu près à se réfugier, et là ça a vraiment ça a été un développement surmultiplié quoi. Et donc c'est une période qui était très très intéressante à réexplorer parce que ça permettait de montrer comment tout ça s'est fait, de quoi c'est parti et comment ça a vraiment broyé des gens. Et en plus, ça a été un peu masqué dans l'histoire, puisque c'est pareil, l'histoire des États-Unis du 19e siècle, l'idée qu'on s'en fait, bon, c'est les westerns, les cow-boys, alors voilà, les duels au colt à six coups, les gardiens de vaches qui mènent leurs troupeaux, le gentil cow-boy, les méchants indiens, et puis en plus, l'indien, c'est, il a son cheval, ses plumes, ses tipis. Les Amérindiens de Californie, c'était pas ça du tout. Ils n'allaient pas à cheval, ils étaient dans les montagnes. Donc c'était aussi intéressant de montrer une autre vision. De même que la vision qu'on se fait de la Californie, c'est la Silicon Valley, c'est le Pacifique, le surf, le bodybuilding, les gens tout beaux, la chirurgie esthétique, etc. Mais les petites villes du fin fond de la Californie, c'est pas ça non plus du tout. Et donc c'était aussi intéressant de situer ça dans l'arrière-pays, au bord de la Sierra Nevada, pour montrer aussi une autre image et peut-être donner envie au lecteur d'aller en chercher davantage.
Georges Bischoff, on voit que nos autrices ont toujours cette idée de moments de transition dans les époques pourtant très diverses qui les intéressent. Alors on pourrait arguer que n'importe quelle période est une transition entre un point et un autre, et puis c'est ça dont on a besoin pour la narration. Est-ce qu'il y a des périodes qui vous ont semblé plus, avec votre regard un peu plus distant, se prêter plus à cette invasion par la fiction?
Comme disait l'autre, hein, il y a des charniers là où il y a des périodes charnières. Il y a effectivement des périodes qui s'y prêtent, les périodes de révolution, les périodes d'événements brutaux, bon, style effectivement le passage du Moyen-Âge à la modernité, mais c'est peut-être une illusion d'optique. Il n'est pas certain que ce qui s'est passé autour de 1500 soit aussi brutal et aussi important que ce qui s'est passé autour de 1700 ou 1800. Donc là, il faut aussi se méfier des découpages scolaires qui sont labellisés par l'usage qu'on en a fait. Mais non, à mon avis, toute période est intéressante. La question étant de savoir ce qu'on en fait. Alors tout à l'heure, il y a des choses très intéressantes qui ont été dites par ma voisine à propos du droit à l'anachronisme. Non, c'est vous qui en avez parlé. Le fait de pouvoir mélanger différentes périodes, réactualiser les dieux antiques dans les années 30, je trouve que c'est une excellente idée, parce que l'anachronisme a une vertu extraordinaire, c'est qu'il oblige à se définir et à faire des comparaisons. Donc c'est un très bon exercice mental. Mais je pense qu'on peut l'appliquer à n'importe quelle période. Alors, vous évoquiez le passé. Je crois qu'il est aussi important de penser au temps à venir. Et là, je ferai deux remarques. La première concerne, là aussi, ce qui a été dit par ma voisine à l'instant, sur le fait qu'en Amérique, l'espace a fini par digérer le temps. Hein, comme si le temps était en partie aboli. Et c'est en grande partie cette idée, cette espèce de basculement de civilisation qui a été observée par Régis Debray, où à l'heure actuelle, au début du XXIe siècle, l'espace et sa maîtrise ont beaucoup plus d'importance culturelle que la perception du temps long, de l'ancienneté et des racines, avec tous les défauts qu'elle peut avoir. Alors, c'était la première remarque. La deuxième remarque concerne le temps à venir. Parce que finalement, la fiction historique, mais ça a été évoquée par vous à l'instant, elle consiste évidemment à remonter le fil du temps, la chronologie, mais elle permettrait peut-être aussi de voir ce qui se passe en aval, c'est-à-dire de faire de, non pas de la prospective, mais de l'histoire-fiction qui se déroule dans un futur plus ou moins proche ou plus ou moins lointain. Et ça, c'est un travail historique, un travail à faire qui me paraît extrêmement utile. C'est ce qu'on appelle actuellement l'histoire contrefactuelle, hein, ou l'uchronie, mais je pense que c'est extrêmement tonique et très utile.
Des uchronies en projet.
Toujours la serre.
Ouais, c'est vrai que la serre est des années 30 fortement réinventée. S'il y a une différence entre vos il y en a beaucoup, hein, mais entre vos deux œuvres, c'est que chez vous, Silène, le monde historique est laissé, alors avec tous les petites incorrections qu'il peut contenir et qui seront attribuées à Dumas, il n'y a pas de magie dedans. Alors que chez vous, Sylvie, au contraire, le monde réinventé est un monde où la magie a existé et existe toujours. Donc en fait, il y a un principe d'histoire secrète, il y a une histoire derrière l'histoire officielle qui est une histoire de la magie.
Oui, de toute la série Lasserre, de toute façon, il fallait absolument que ce soit de la fantaisie, parce que pouvoir mettre les dieux qui se promènent au milieu des hommes, oui, forcément déjà là, il fallait poser un présupposé que ce soit normal dans ce monde-là. Et mais d'ailleurs, les humains n'ont pas de pouvoir magique, hein, il n'y a que les dieux dans Lasserre. Comme c'est des dieux, effectivement, ils peuvent se permettre de faire plein de choses, mais avec leurs propres limitations et leurs propres histoires de famille. Dans Satinka, là, je voulais que ce soit ce qu'on appelle de la fantaisie urbaine, c'est-à-dire une fantaisie plus ancrée dans le monde d'aujourd'hui, donc justement en travaillant sur l'histoire réelle, mais en mettant des mages, des gens qui ont des pouvoirs, des chamans. Et là, c'était aussi intéressant de pouvoir jongler avec ça, puisque ça nous permet aussi de retourner dans le passé. Enfin, pour la narration, ça pouvait donner des développements intéressants.
Et donc, on a plusieurs écoles de magie, en fait, hein, qui sont une façon de revisiter le melting pot américain.
Oui, c'est un peu ça. Et puis aussi de revisiter aussi les traditions, parce que je ne suis pas partie de rien pour inventer mes magies. Je suis aussi allée chercher un petit peu dans les mythologies chinoises, un peu chez les Amérindiens, avec notamment les grands esprits, avec des choses qui étaient tirées aussi de petits rituels qu'ils avaient. Et notamment, là aussi, j'ai trouvé pas mal de documentation justement sur les objets qui étaient utilisés par les chamans, justement, pour leur rituel. Et à un moment donné, quand je décris la bourse du chaman avec son contenu, ça aussi, c'est des choses qui m'ont été données par les fameux Amérindiens de la rancheria d'Auburn. Donc, ils avaient gardé ça dans leur tradition. Et donc, c'était aussi intéressant de construire, d'imaginer autour de ça une magie, mais qui s'appuie quand même sur des choses réelles tirées de l'histoire.
Pour vous, Silène, donc la frontière, elle passe où entre les romans de vos romans de fantasy et puis le roman proprement historique, hein?
En fait, dans les deux qui ont un côté, il y a un côté fantastique, il y a un prétexte. Voilà, les lettres que s'échangent les deux Adrien dans 14-14 avec cette boîte aux lettres magique, c'est vraiment le prétexte qu'on n'a pas voulu trop appuyer. Alors, moi, par incompétence, Paul par choix, parce que lui, il sait très bien faire de la fantaisie historique. Et dans Adèle, le fait de passer par le livre, c'est pareil, c'est une petite magie. C'est pas grand-chose. C'était pas ce qui me... C'était le prétexte, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. J'ai eu énormément de mal à accepter de faire une mini-uchronie en faisant en sorte qu'Ambroise Paré fasse la première appendicectomie au milieu du 16e. En plus, je me suis dit, t'avais toutes les vidéos YouTube et tout, c'était abominable. Mais si quelqu'un a l'appendicite, tu peux l'opérer. Et donc rien que ça, déjà, ça m'a posé des problèmes incroyables.
Mais des problèmes parce que tu trahissais l'histoire.
Oui, parce que je me suis dit soit je fais de la magie et là en effet même là il faudra que je m'appuie comme tu as pu le faire sur des choses quand même ou alors c'est du fantastique, c'est un prétexte et puis on va pas forcer le trait quoi. Mais c'est des questions que je me pose beaucoup parce que je m'adresse à des tout jeunes gens. Et c'est les mêmes questions par rapport à l'histoire, hein. Dans 42 jours où je parle de 42, ça a été très difficile de passer le pas, de me dire je vais parler de la Seconde Guerre, c'est difficile, je veux pas trahir la mémoire, et du coup là le fantastique était pas du tout pour moi le bon moyen, ça a été plutôt de puiser dans des éléments personnels, dans ce qu'on avait pu me transmettre dans la famille. Mais voilà, je crois que après, si je me mets à mettre des choses vraiment magiques, ce sera un choix différent. Et dans ce cas-là, j'en mettrai un paquet.
Voilà. Est-ce que vous pensez l'une comme l'autre que vous pourriez écrire quelque chose de non historique? Parce que on voit bien que même dans la serre, il y a ce besoin de documentation à l'arrière-plan. Alors qu'on est en fantaisie, et donc vous pourriez très bien laisser libre cours à votre imagination et inventer n'importe quoi. En guise de dernière question, pourquoi l'histoire? Pourquoi cette nécessité de l'histoire à l'arrière-plan de vos livres?
Je sais pas, mais je sais que ça m'obsède. c'est super important. Là, on est en train de réécrire avec Paul, et en fait, le contexte historique n'est supposé avoir aucune importance. En tout cas, lui, il n'y accorde pas autant d'importance que moi. Moi, j'ai voulu que ce soit en 1846. Je me suis renseignée, j'ai regardé le cadastre napoléonien. Parce que 46, il y a une sécheresse, donc ça colle et tout. Je suis hyper embêtée parce que on a mis une rivière, mais il n'y avait pas de rivière à ce moment-là. moment-là à Tiercelieu. Alors du coup, j'ai vérifié que ça gênait pas trop quand même qu'on fasse ça et tout. Je sais que ça va embêter les gens quand même qu'on ait mis une rivière. Voilà. Mais heureusement, Paul me décoince et on peut avancer quand même. Donc je sais pas si je pourrais faire autrement.
Pour l'écrivain, effectivement, écrire de la fantaisie totalement inventée, c'est un autre exercice. Parce que là, il faut monter son monde de toutes pièces, il faut le rendre cohérent, donc c'est un autre exercice. Et moi, j'avoue que un de mes bonheurs quand j'écris ce genre de roman, c'est vraiment les moments... Mais c'est un vrai jeu de pistes. On commence à faire des recherches, on tombe sur des documents, il y a des noms qui sont cités, on a un chercheur qui est évoqué, alors on va regarder les travaux de ce chercheur. Et voilà, on remonte la plotte, et ça, pour moi, c'est un bonheur. J'adore ça. Et du coup, je découvre une foule de choses et je me dis, oh, il y a des gens qui ont cherché tout ça, mais c'est passionnant. Et du coup, c'est une partie de ce que j'aime faire. Donc du coup, ça explique qu'il y ait effectivement souvent une base un peu historique parce qu'il y a ce bonheur de la documentation. Maintenant, j'ai un projet de roman sur lequel j'ai commencé à travailler. Donc je suis encore en train de travailler sur l'idée, etc. Mais ça va être un petit peu des deux. Puisque ça va démarrer en fait dans le massif du Mézin en Haute-Loire pendant la guerre de 14-18, mais les hommes sont partis, donc ils restent, donc c'est dans une ferme isolée dans la montagne, il reste évidemment que les vieux, les femmes et les enfants, et donc il va se passer quelque chose d'un peu extraordinaire et qui fait qu'à un moment donné, un ou plusieurs personnages vont basculer dans un autre monde, et là pour le coup un monde de fantaisie totale. Et donc, il va falloir le construire, l'inventer. Et le but, ça va être justement d'être complètement dépaysé par rapport à notre monde à nous, parce que là, les repères sont pas les mêmes. Et du coup, je vais un petit peu essayer d'explorer ces techniques de construction d'un monde qui font vraiment appel en termes de créativité à toute autre chose. Mais la créativité, quand on travaille sur l'histoire et qu'on invente une fiction, c'est vraiment un exercice périlleux parce qu'il faut arriver à ce que ça tienne debout. Il faut glisser notre petite part d'invention, mais tout en essayant de respecter au maximum la trame historique pour ne pas trahir. Donc c'est un peu compliqué de trouver la limite, mais c'est aussi ce qui rend l'exercice intéressant.
Juste un petit mot, la récompense, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est quand on cherche, on crée un personnage, on crée quelque chose, on a un fil, on sait ce qu'on veut faire, on cherche, et puis tout d'un coup, on trouve qu'en fait, le mec, il a vraiment existé. Alors là, c'est trop génial, parce qu'on se dit « Ok, c'est bon, je peux le mettre !»
D'Artagnan a existé quand même, non?
Oui, mais non, je pensais à... Voilà. Dans 42 jours, j'avais besoin d'un ancien, d'un facho qui vire sa cutie et qui devienne résistant. Et en fait, Paul Corazi est arrivé et il était parfait. Il a vraiment existé.
Donc, vertu de la contrainte. Et puis George Bishop, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elles auraient dû être chercheuses, en fait. Elles auraient dû être historiennes.
Non, pas du tout, pas du tout.
Ça aurait été dommage.
Je préfère mille fois des romanciers qui font de l'histoire à des historiens qui font du roman. Et à cet égard, je voudrais citer un livre qui m'a profondément marqué, qui est un livre de l'écrivain allemand Günter Grass, qui s'appelle « Une rencontre en Westphalie » et qui a imaginé une rencontre d'écrivains en 1848, au moment de la fin de la guerre de 30 ans. Et ce livre commence par une formule très étrange qui serait un bon sujet de dissertation. Je cite de mémoire « Hier sera ce qu'a été demain. Nos histoires d'aujourd'hui n'ont pas besoin de s'être passées maintenant. » Alors c'est un peu abscon, mais je pense que ce qui est effectivement important, c'est de se dire que un créateur, un romancier, peut réinterpréter le passé, le relire d'une manière métaphorique à partir d'une expérience qui est celle de sa vie, d'un déroulement, de sa propre chronologie. Et c'est très important à mes yeux.
Je vous remercie pour cette très belle table ronde. Et puis, à très bientôt dans d'autres rendez-vous sous d'autres Magic Mirrors. Merci aux auteurs. Merci à Georges Bischoff. Merci.